Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Hélène Manarino, bonjour, vous êtes là ?
Mais bien sûr, Philippe, je suis là. Bonjour, bonjour
Mais
à tous.
Quel bonheur, j'ai posé cette question à Cyril Lacaillère, je vous la pose, vous êtes réveillé depuis quelle heure ? Depuis 6 heures, évidemment.
Depuis 5h45.
Exactement, parce qu'on peut vous voir également
exactement,
le
on
matin
très précis.
Sur LCI. C'est votre journal la culture, journal qui commence, Hélène, par deux artistes qui offrent ensemble un titre pour témoigner de leur solidarité au personnel soignant.
Et oui, Philippe, il s'agit du couple Vanessa Paradis, Samuel Benchetrit. Ils ont posté hier leur chanson sur Instagram. Vanessa Paradis au chant, assise sur son lit. Samuel Benchetrit à la guitare. Ils ont voulu donc rendre hommage à tous ceux qui se mobilisent pour sauver des vies.
Je vous envoie cette tendresse que je gardais juste pour vous. Soigner tant de détresse, moi à l'abri, je pense à vous. Dans vos jours noirs où rien ne cesse, il y a nos vies, c'est grâce à vous. Dans vos nuits blanches, loin des caresses, il y a vos vies.
Alors ils ont déclaré en préambule dans une vidéo postée sur le compte Instagram d'Alison Paradis, donc la sœur de Vanessa. Bonjour, on a une petite chanson pour vous, pour tout le personnel hospitalier. Prenez soin de nous et des nôtres sans cesse. On pense à vous et donc on vous remercie du fond du cœur. Et puis on le rappelle, Philippe, chaque soir, rendez-vous à 20h à vos fenêtres, vos balcons, afin d'applaudir tous celles et ceux qui travaillent quotidiennement pour sauver des vies.
L'une des plus grandes foires d'art contemporain mondial reportée suite à l'épidémie.
Oui, l'Art Basel à Bâle en Suisse, rendez-vous incontournable chaque année au mois de juin. Hier, les organisateurs ont annoncé le report de l'émission 2020, donc en septembre. Ils ont échangé avec les galeristes, les collectionneurs, les partenaires. Tout se passera donc du 17 au 20 septembre. La version du salon à Hong Kong qui était prévue en mars avait déjà été annulée. Alors quant aux journées réservées aux grands collectionneurs qui viennent avant que la foire n'ouvre officiellement ses portes, ils sont attendus désormais les 15 et 16 septembre.
Et maintenant, on va prendre la direction du Grand Palais. Une partie de l'exposition Pompéi peut se passer chez vous.
Et oui, suite au confinement, l'exposition est très attendue sur la cité antique, donc n'a pas pu ouvrir ses portes. C'était prévu mercredi. Elle devait se terminer le 8 juin 2020. Elle est officiellement reportée. L'exposition a été imaginée avec le parc archéologique de Pompéi. En attendant, bonne nouvelle, certains contenus sont en ligne pour les adultes et les enfants. Des vidéos sont mises en ligne pour nous raconter l'organisation des dernières fouilles, découvertes de mosaïques, visite d'une riche villa reconstituée. Et puis un voyage à Pompéi pendant 42 minutes par le biais d'un film. Des quiz sont également à disposition, ainsi qu'un puzzle et des livrets de jeux pour les 7-11 ans. Alors ça reste un avant-goût en attendant l'ouverture officielle de l'exposition.
Et ça va intéresser beaucoup de gens, puisque Cyril Lacaillère nous disait que hier, l'émission de France 5 sur Pompéi a réuni 1 700 000 téléspectateurs. Le Festival d'Aubagne a une solution après son annulation.
Festival dédié au 7e art, il devait se dérouler du 30 mars au 4 avril, il a été annulé, mais les organisateurs ont trouvé un système pour qu'il soit tout de même maintenu et aux mêmes dates. Il sera tout simplement en ligne, une 21e édition totalement dématérialisée et digitale, programmation de courts et longs métrages en e-cinéma. Tout est gratuit pendant 24 heures. Séances du jour partagées sur les réseaux sociaux. Les différentes rencontres aussi avec les professionnels du milieu se feront par visioconférence. Alors chaque année, le Festival d'Aubagne réunit 700 réalisateurs, scénaristes, auteurs et compositeurs et attire plus de 20 000 spectateurs.
Deux stars internationales, je ne sais pas qui c'est, qui vont donner un concert à la maison. Je sais juste que le concert sera présenté par Elton John.
Mais oui, il s'agit de deux chanteuses, Philippe. Réponse en musique.
Just always so puff, guy.
I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Alors elle maintenant, je la reconnais, c'est Billie Eilish. Et sa voix poussée comme
évidemment.
Ça, c'est elle. Et la première, c'était qui? J'ai pas reconnu.
Mais enfin, Philippe, c'est Maria Carré, la diva. Ah, ben oui, une chanson que j'ai tellement chantée au karaoké d'ailleurs.
Ouais,
bref,
mais j'étais pas
celle, donc Billie. Ben non, c'est vrai.
Donc, on s'en fout
la
un peu.
Billie Eilish. Mais je sais, mais j'aime bien vous donner des petites infos
vraiment,
c'est pas mal. Pour votre petit carnet, vous notez.
Ouais.
Billie Eilish, la révélation de cette année, aussi la grande gagnante des Grammy Awards, hein, vous l'avez dit. Alors, ces deux chanteuses donneront un concert dimanche en direct de chez elles afin de récolter des fonds pour lutter contre le coronavirus. Un concert diffusé sur la chaîne Fox pendant une heure et diffusé sur quelques radios. Une soirée spéciale présentée par Elton John, intitulée « Concert en salon pour l'Amérique ». La présence d'Alicia Keys et des Backstreet Boys est également annoncée. Tous les artistes se filmeront avec leur téléphone portable ou autre moyen technique. C'est la première fois qu'un événement culturel de cette ampleur est organisé aux États-Unis depuis le début de l'épidémie.
Et puis Hélène, rapidement, vous avez l'info que je vous ai demandé hier.
Oui, Philippe, hier, je vous parlais de Thomas Joly, le directeur du Centre dramatique national d'Angers, le Quai, qui a décidé d'offrir du théâtre à son balcon, son propre balcon, certains soirs. Alors ça y est, j'ai l'adresse, je vous la donne, chers auditeurs, c'est rue Voltaire. Alors la rue n'est pas très grande, donc levez la tête et allez l'applaudir si vous le voyez.
Une magnifique initiative à Angers. Merci beaucoup Hélène Manarino, bon week-end.
Bon week-end à vous, à lundi.
Culture Média qui continue. Dans un instant, nous serons avec Michel Jonas. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Michel Jonas.
Bonjour.
Quel plaisir de vous entendre. Vous revenez pour un nouvel album, il s'appelle La Méouge, le Rhône, la Durance, on va l'expliciter après. Mais d'abord, je voudrais dire quelque chose qui est unique chez Jonas, je m'adresse à nos auditeurs, auditrices, c'est qu'il peut vous chanter une seule note, en l'occurrence c'est un sol, puis des fois ça passe en si bémol, mais une seule note et on sait que c'est Jonas.
Parce que j'entends vachon et sa petite entreprise, mais comme dit le grand Gustavio, Baby c'est la crise.
Ça, c'est le deuxième titre de l'album, Baby c'est la crise. Vous l'avez évidemment écrit avant le coronavirus. De quelle crise parlez-vous, Michel Jonas?
Bah, et c'est évidemment pas une chanson sur la crise qu'on traverse, mais c'est une chanson sur le banal manque de courage d'un homme qui sait pas comment rompre. Vous savez, les hommes, ils peuvent manquer de franchise, hein, des fois.
Ah oui.
Et puis de courage dans des situations. Les femmes sont souvent plus directes, plus spontanées, mais on peut avoir tendance à prendre des détours par manque de. On a peur de blesser, de faire de la peine. Alors c'est vrai que c'est irrespectueux d'ailleurs de penser que l'autre n'est pas assez fort pour supporter la vérité. Hein. Personne n'est assez fort pour supporter le mensonge, qui est une trahison. Donc, Baby, c'est la crise. C'est un peu un homme qui a trouvé un prétexte. Tu comprends, chérie, c'est la crise partout, donc c'est normal que ce soit la crise entre nous. Voilà, c'est plutôt ça. Hein.
C'est votre premier album depuis 8 ans. Pourquoi tout ce temps entre plusieurs albums? Je le sais, vous avez fait plein de choses, du cinéma, plein d'autres choses, mais ce que je voudrais savoir, c'est comment travaillez-vous?
Alors, il me faut un moment tranquille, malheureusement comme on en connaît maintenant, c'est pour ça que je me suis remis à écrire, et comme c'est vrai que ces 8 dernières années, d'abord le temps passe très vite, hein, et c'est vrai que ces 8 dernières années, j'étais beaucoup, j'avais beaucoup de concerts, j'avais beaucoup de, du théâtre, etc. Et donc moi, comme j'ai besoin d'être vraiment tranquille pour écrire mes textes, etc., c'était en 2018-2019, où là, les concerts se sont un petit peu calmés dans le planning, et donc je me suis recommandé. Mais ça me manquait, hein, parce que j'adore l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est un moment très important dans ma vie artistique. Hein. L'écriture, c'est un moment que j'aime beaucoup, mais difficile d'en parler, parce que c'est comme un voyage intérieur.
Exactement.
Écrire une chanson, c'est pas comme planter un chevalet devant un paysage et peindre. C'est imaginer, c'est rêver, c'est inventer, c'est exprimer des émotions et des sentiments. Voilà. Alors bien sûr, mon inspiration, elle plonge ses racines dans ma propre vie, mais il y a tellement de façons de se raconter. Donc, l'écriture, c'est un moment qui m'appartient. Alors, le résultat, ça appartient au public, hein, évidemment. Mais quand j'écris mes chansons, pour répondre à votre question, je suis dans un état psychique et physique très particulier d'hypersensibilité, d'ouverture, un état un peu émotionnel difficile à décrire, calme, paisible, en même temps une intensité, une excitation. Donc, c'est vrai que ça demande une période de tranquillité.
Alors, d'abord, vous écrivez, c'est ça qui est assez étonnant chez vous, parce que nous, on vous connaît comme musicien, comme chanteur, donc on se dit, tiens, il commence par la musique, pas du tout, et vous écrivez tout au mot près, à la virgule près, avant de vous lancer. Ah oui. Tout à l'heure, on va entendre en entier Une nuit tropicale, et il y a aussi cette chanson dont je voudrais qu'on entende quelques notes. C'est peut-être pas tout à fait des notes, ça donne le titre à l'album, La Méouge, le Rhône, la Durance, quelques mesures.
Le génie créateur de l'homme est admirable, mais pourquoi voulez-vous saisir l'insaisissable ? On n'entend plus la neige derrière vos bavardages. Tiens, en voilà bien l'exemple. Ils ont voulu comprendre le mécanisme qui rend possible à l'ouïe humaine le chant des cigales en été, le tympan, le marteau, l'enclume, le vestibule, les sons dans l'air qui se propagent. Mais ils ne savent plus voir dans les nuages la vie miraculeuse et le feu qui s'élève. Les eaux de la Méouge, du Rhône, de la Durance, et la Marne, et la Seine, et l'Aude, et la Dordogne.
Pourquoi est-ce dit ce texte et non chanté, Michel Jonas ? Je l'ai mis parce que c'est choisi, parce que c'est très étonnant, justement.
Oui, mais c'est justement parce que j'avais écrit un texte comme ça qui n'était pas destiné à être une chanson, forcément. Ouais. Je me disais que voilà, ça me venait, puis je me disais, après, je vais le mettre en forme, je vais le mettre avec des vers, avec des rimes, avec des... Et j'ai pas pu, et il y avait 4 pages d'écriture comme ça, et je me suis dit, voilà, je vais le dire. Voilà, je vais le dire, parce que je pouvais pas faire autrement, parce que c'est pas du tout fait pour être chanté. Sa forme, si vous voulez, physique, ce texte n'est pas fait pour être chanté, donc voilà, je me suis dit que j'allais le dire.
Et bien avant l'invention du slam, Léo Ferré avait déjà fait ça.
Oh bah, évidemment.
Vous êtes pas le premier. Avec qui vous avez travaillé?
Ah bah alors cet album a été fait, c'est un vrai travail collectif, ça a été fait avec Manu Katché et Jean-Yves D'Angelo pour les arrangements, Jérôme Regard qui faisait la basse, Hervé Bro qui faisait la guitare et toute une très belle section de cuivre, voilà.
Ouais, ça sonne vraiment...
Mes vieux complices quoi.
Très très bien, Manu Katché va être très heureux d'apprendre qu'il est vieux. Il y a une chanson intitulée vieux. Maison de retraite, alors je vais vous dire, j'ai rarement vu un texte aussi violent, je cite le texte. Tu parlais de naufrage, d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement. La peur de vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps, de ne plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va, que l'on ne se reconnaît plus, peur de la dépendance et de finir sa vie dans une maison de retraite, de la fin qui commence. Dit comme ça, le texte, c'est d'une crudité terrible. Et pourtant, oui, Michel Jonas, attendez, quand c'est vous qui chantez, ça passe.
J'ai retrouvé ta lettre où tu disais peut-être un jour on sera trop vieux. Écrire des poèmes pour se dire que l'on s'aime, se regarder dans les yeux. Tu parlais de naufrage d'un corps qui n'a plus d'âge et qui s'en va doucement. De la peur de vieillir et d'avoir à subir l'impertinence du temps. De ne plus pouvoir s'aimer si la mémoire s'en va et qu'on ne se reconnaît plus. Disais-tu le plaisir de me plaire, l'envie de me séduire. Peur de la dépendance et de finir sa vie dans une maison de retraite. De la fin qui commence, de l'esprit qui divague. Peur de ne plus pouvoir un jour rire à mes blagues. Mais tout ça c'est des bêtises, est-ce que tu réalises, on sera jamais trop vieux.
Et justement le miracle, c'est qu'après ça devient positif, il n'y a que vous qui pouvez faire ça, Michel Jonas.
Oui, non, mais c'est d'ailleurs la partie la plus importante, c'est-à-dire que leur maison de retraite, ils peuvent se la garder, nous on n'ira jamais. C'est-à-dire que c'est encore une chanson sur l'amour, en fait, sur l'amour sans limite qui peut vaincre par sa force tous les obstacles, tous les ennemis, dont la peur, justement, ouais. La peur, par exemple, de vieillir. Voilà, ouais, ils peuvent se la garder, leur compote de pommes. C'est vrai, c'est une chanson essentiellement d'amour, quoi.
Mais quelle belle énergie. Merci beaucoup, Michel Jonas, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre album, La Méouge, le Rhône, la Durance, on le trouve partout quand on peut le trouver, évidemment également en digital. Dans un instant, on va retrouver nos indispensables du jour, Laurent Mariotte et Nicolas Caro. Mais avant, je l'avais dit, musique avec Michel Jonas. Et le titre extrait de cet album sur Europe 1, c'est Nuit tropicale.
Europe 1. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Philippe.
J'adore ce petit saut qui fait prrrt, on dirait qu'on vous appelle. Nicolas, ce matin, vous nous proposez, je l'ai dit, un roman d'anticipation.
Oui, mais bien sûr, comme dans tous les bons romans de ce genre, on reconnaît quelques éléments de notre présent à nous, sinon c'est pas intéressant. Alors là, c'est chez Rivage Noir, grand éditeur de polar, c'est signé Alexandra Schwarzbrod, multiprimée pour ses romans noirs. Elle signe cette fois Les Lumières de Tel Aviv. Nous sommes donc en Israël, sauf que, des ultra-religieux, des ultra-orthodoxes ont pris le pouvoir et imposent une forme de dictature, en tout cas un état autoritaire. Ils sont parrainés, aidés par les nationalistes russes qui fournissent une aide au moins logistique.
Et qui est le héros ou l'héroïne de l'histoire ?
Eh bien, il y en a six. Un ultra-orthodoxe qui veut tout quitter pour rejoindre Tel Aviv, deux jeunes Palestiniens, il y a Anna, il y a Isaac aussi qui travaille pour les autorités, et Eli, un policier. Les chapitres alternent entre la vie de ces différents héros. D'une manière ou d'une autre, ils doivent tous franchir le mur qui sépare Jérusalem aux mains des ultra-religieux, donc, de Tel Aviv, qui est devenu un foyer de résistance, qui bascule même dans une forme d'anticléricalisme radical parfois.
Et alors comment ils font pour franchir le mur ? Parce qu'un mur, normalement, ça se franchit pas.
Eh ben, c'est très compliqué, effectivement. C'est une sorte de mur de Berlin. Ça tire si vous essayez de partir. Haïm, au tout début du roman, se sert d'une perche pour passer au-dessus. Personne ne se doutait d'ailleurs qu'Haïm pouvait faire ça. Il faisait partie des ultra-orthodoxes et il a laissé sa femme, Anna, derrière lui.
Et alors, qu'est-ce qui se passe à Tel Aviv ?
À Tel Aviv, on veut reprendre l'idéal du début de 48. C'est l'esprit des kibbutz que nous explique Alexandra Schwarzbrod.
Les kibbutzniks, c'est tous ceux qui sont partis après la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui voulaient créer un État israélien et qui ont entrepris de créer, donc avec David Ben-Gourion, le premier ministre, celui qui va devenir le premier ministre israélien, un État à l'époque totalement laïque et qui serait un peu développé à la force du poignet, parce que il y avait tout à faire, et donc par des gens réunis dans des kibbutz, c'est-à-dire des collectivités, des sociétés collectives, des groupes. Il y avait une espèce d'utopie qui était de créer une société assez égalitaire. Donc j'ai voulu retrouver cet esprit-là, totalement laïque et égalitaire, hein, de ces années d'utopie, mais cette fois en y incluant les Arabes.
Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, bien sûr, mais donc dans ce contexte, on trouve de l'action, une histoire d'amour, de la géopolitique, tout un monde, mais notre monde au fond, puisque ce roman est aussi une manière d'alerter, de réfléchir sur la situation présente, et pas seulement en Israël, c'est l'intérêt d'un roman d'anticipation.
Il met en garde contre, justement, même pour le monde entier, la tentation de bâtir des murs physiques, hein, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de murs dans le monde, mais aussi des murs mentaux, des murs psychologiques. On voit bien qu'il y a une tentation de repli sur soi, de sécession, de partition partout dans le monde. Et c'est ça aussi que j'ai voulu raconter dans ce roman.
Voilà, et ça donne surtout et d'abord un très bon roman addictif, à la narration parfaite, très bien écrit, très rythmé. Au passage, on ne prend pas assez au sérieux les récits d'anticipation. Les écrivains, la littérature essayent de nous alerter, nous prévenir, de nous mettre en garde. Mais oui, sans arrêt, ils hurlent ça.
1984,
on les écoute jamais.
1984, c'était cité partout.
Bah oui.
On l'a écouté.
Bah on les a écoutés. On l'a écouté, Orwell.
Et oh,
je trouvais qu'on l'a écouté.
Et oh, vous savez quoi, Nicolas Caro, c'est pas parce que vous êtes en confinement que je vais me faire engueuler.
Si, ça me rend furieux.
Mais oui, je sais.
Avec la fiction, c'est un moyen d'y parvenir. Alexandra Schwarzbrod, elle est journaliste, directrice adjointe de Libération. Elle a écrit des essais aussi, mais le roman, c'est parfait puisque ça lui permet de faire passer un message plus fort.
Le roman, justement, permet aussi de mêler la peur, l'anticipation et l'intime, ce que ne permet pas le journalisme. Dans le journalisme, c'est difficile de traiter l'intime. On a du mal à parler de l'intime, des émotions, de la peur, du désir, juste de la sensation d'une mère de famille qui ne sait pas où sont ses enfants alors qu'une bombe vient d'éclater, ou de deux amoureux qui sont séparés par un mur. C'est ça le grand bonheur, à la fois pour un auteur et peut-être, j'espère, pour un lecteur du roman, de la fiction, c'est qu'en parlant de l'intime, on arrive à parler finalement de grandes choses, enfin de l'avenir, de la peur et du monde, du collectif.
Voilà, et ça s'appelle Les Lumières de Tel Aviv, donc d'Alexandra Schwarzbrod, c'est chez Rivage Noir.
Et ça a l'air passionnant, merci beaucoup
ouais,
Nicolas Caro, bon week-end. Nous,
salut.
Avant de retrouver Laurent Mariotte qui est dans sa cuisine, un peu de musique, on va écouter Jill is Lucky, le titre c'est Off the Wall.
Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde.
Je reconnais la sonorité, vous êtes avec nous depuis votre cuisine pendant cette crise. Vous présentez, je le précise, tous les samedis la table des bons vivants sur Europe. Mais là vous êtes avec nous et je dois le dire, je vous ai fait une commande mercredi. Parce que depuis qu'on est confiné, vous savez, c'est une confidence, il y a 4 ou 5 personnes qui m'ont dit, sans se concerter évidemment, qui m'ont dit avec toute cette histoire de confinement, j'ai envie de confit. Et je me suis dit, ça c'est pour Mariotte, voilà votre feuille de route. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se faire choisir, déguster du confit?
Ben oui, le confit du confiné, c'est d'actualité, je suis bien d'accord. Donc c'est vrai que tous les gens qui nous écoutent effectivement dans le Sud-Ouest connaissent ça par cœur. On parle de confisage hein, d'ailleurs pour le confit, c'est des cuisses de canard qu'on va mettre avec du gros sel pendant une nuit. On a récupéré la graisse du canard et ensuite on va faire fondre ces cuisses dans la graisse pendant une heure. On met en bocal, on stérilise et là voilà, on a des conserves tout simplement de confit de canard. Et je peux vous dire que par les temps qui courent, c'est bien pratique.
Ouais, alors les recettes.
Ah bah alors les recettes c'est simple, vous prenez votre cuisse de canard.
On avait l'impression que vous étiez en train de finir votre bouchée, que vous étiez à table.
Non je finissais.
Bon app,
non je finissais
bon
mon thé. Je finissais ma gorgée de thé, pardon.
Allez-y.
Je carbure au thé vert le matin.
C'est ce qu'on dit.
Non, alors des recettes toutes simples, Philippe. Une cuisse de canard que vous allez sortir de votre bocal. Vous la faites réchauffer au four pour avoir un petit côté grillé sous le grill du four, si vous voulez, ou à la poêle, très bien. Et vous les accompagnez tout simplement de pommes de terre avec une belle persillade de pommes de terre. Je sais que vous aimez ça, les pommes de terre sautées à la poêle.
Ouais,
comme
mais
ça.
Je sais pas bien les faire comme au resto. J'ai une technique qui vaut ce qu'elle vaut. Je fais la moitié, moitié de la cuisson à la vapeur et ensuite je les mets dans du beurre et de l'huile et de l'ail après à la poêle.
Eh ben, c'est
bien, mais c'est pas
voilà,
bon.
C'est ça la cuisine.
Ouais, mais c'est pas bon comme
faut
au resto.
Faut pas que ce soit figé, on s'adapte en cuisine. Elle est bien votre technique. La vraie technique, c'est de prendre des pommes de terre, de la charlotte, une pomme de terre à chair ferme par exemple, qu'on va tailler en rondelles à 3 mm d'épaisseur. On les fait revenir dans de l'huile de tournesol à feu vif quelques minutes comme ça pour les faire colorer. Et dès qu'elles sont colorées, on baisse la flamme, on se met à feu moyen et pendant 15 minutes, on les accompagne jusqu'à ce qu'elles soient fondantes.
Ah bah voilà.
Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre de l'ail et du persil.
Ah
voilà,
bah voilà.
Tout simplement.
Moi, je faisais pas deux niveaux de flamme, donc je viens d'apprendre ce qui faisait que je réussissais pas comme je le souhaitais.
Feu vif au début, feu moyen ensuite. On peut aussi récupérer la chair de ces cuisses de canard quand on en a beaucoup pour faire une effilochée de chair de canard et qu'on va mettre dans un hachis parmentier traditionnel ou hachis parmentier de patates douces par exemple. Ça c'est tout simple et ça marche et ça plaît beaucoup aux enfants. On est à la fin de la saison du potimarron, Philippe aussi, un velouté de potimarron avec une effilochée de canard confit par-dessus. Hein, pareil, la cuisse de canard qu'on a mis au four, on la récupère quand elle est chaude, on effiloche la chair et on la met sur le velouté de potimarron avec un petit peu de persil. Mais alors ça, je vous assure que c'est divin.
Voilà. Il y a du dessert ou pas?
Ah bah, alors oui, alors avec le canard confit, ça va être compliqué, mais on va faire des fruits confits, alors.
La vanne. J'adore.
Non, je vous ai trouvé un dessert vintage.
Allez-y.
Le diplomate, ça vous parle ou pas?
Pas vraiment. Je connais ce mot, je ne sais pas à quoi ça correspond. Très bon sujet. Allez-y.
C'est une pâtisserie vintage. Traditionnellement, c'est une génoise imbibée de Grand Marnier avec une crème pâtissière et beaucoup de fruits confits à l'intérieur. On raconte que ça aurait été inventé au congrès de Vienne. Hein. Je suis à Culture Média, donc on sort un petit peu de culture quand même. Vous voyez,
allez-y.
Le congrès de Vienne, c'est Talleyrand, par exemple, qui, en 1815, demande à son cuisinier Antonin Carême d'imaginer quelque chose qui va plaire à tous les diplomates qui sont autour de la table. Et évidemment, qu'est-ce qui rassemble le plus grand nombre?
L'alcool.
C'est le sucré. Donc il invente ce diplomate qui est une pâtisserie avec des fruits confits.
Moi, j'avais dit l'alcool.
Oui, aussi, bah oui, le Grand Marnier, vous avez
c'est
raison.
Pour ça, ouais.
Oui, mais là, il fallait un petit peu de consistance, fallait qu'il y ait un petit peu de quelque chose qui tienne au ventre. Et je vous mettrai d'ailleurs sur mon site une recette simplifiée du diplomate, parce que au départ, c'est quelque chose d'assez technique quand même, le diplomate.
Hein. Votre site, laurentmariotte.com. Ouais, c'est difficile à faire, le diplomate, ça se fait pas comme ça. Ça peut pas
la génoise, le Grand Marnier, mais on peut le faire avec des biscuits à la cuillère, avec des biscuits boudoir. Justement, faut profiter de ce confinement pour adapter les recettes. Comme je le disais, la cuisine, elle est pas figée, donc il faut s'inspirer de ce qu'on a dans les placards et puis de s'amuser à twister, comme on dit, à changer un petit peu et à dévier de la version traditionnelle et classique. Il y a pas de souci pour
également, ça. Également, et pardon de le répéter, également d'aller acheter des légumes frais qui sont toujours disponibles et de toute façon qui doivent pousser. Donc de toute façon, ne vous dites pas, je vais les acheter pour pas les jeter. De toute façon, ils vont être jetés. Ils ont été plantés il y a quelques semaines, quelques mois, ils vont arriver, ces légumes et ces fruits frais.
100% raison, Philippe. Plus que jamais, il faut consommer des produits frais, des produits de saison. C'est comme ça qu'on va soutenir nos agriculteurs. On en parlera d'ailleurs demain à la table des bons vivants avec une productrice d'asperges, justement, qui a de la main-d'œuvre, qui arrive en nombre, justement, suite à l'annonce du ministre de l'Agriculture. Et c'est vrai que les gens se mobilisent en respectant les consignes sanitaires, les règles de sécurité. On peut aller travailler dans les champs. Et voilà, il faut pas laisser gaspiller cette nourriture qui nous attend. Il y a les épinards, il y a les asperges, les premières fraises qui débarquent. Les légumes primeurs vont arriver aussi, les pommes de terre, les navets, les carottes. C'est vraiment important de manger équilibré en ce moment avec des produits de saison.
Oui. Merci beaucoup Laurent Mayotte. Je rappelle que vous serez demain à 11h pour la table des bons vivants sur Europe 1 et vos recettes, on les retrouve sur vos réseaux sociaux et sur laurentmayotte.com. Merci Laurent, bon week-end, à très très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve lundi à 9h30 pour Culture Média. Nous serons avec Michel Field et le chanteur Tété. Après le flash, vous allez retrouver sur l'antenne Anne Romanoff et sa bande pour Ça fait du bien. Bonne journée sur Europe.